Radio Courtoisie, nous abordons maintenant la deuxième partie de cette émission, toujours en direct. Je rappelle que nous n'avons personne au standard, mais vous pouvez nous faire part de vos questions, de vos messages que nous proposerons à notre invité ce soir par courrier électronique courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr. Je démarre cette émission en citant Bossuet. Hélas, nous ne pouvons un moment arrêter les yeux sur la gloire de la princesse sans que la mort s'y mêle aussitôt pour tout offusquer de son ombre. Ça, c'est donc Bossuet dans l'oraison funèbre d'Henriette Anne d'Angleterre. Henriette Anne d'Angleterre n'a laissé que sa mort, écrit Jean-Michel de la Comté dès la première ligne de son magnifique et passionnant portrait qu'il consacre donc à Henriette d'Angleterre. Elle n'a laissé que sa mort. Et pourtant, cette mort soudaine, le 30 juin 1670, violente, brutale, a traversé les siècles et continue à nous bouleverser. L'homélie funèbre de Bossuet demeure aussi une des très grandes pages de notre littérature. Comment expliquer qu'un personnage, même très proche de Louis XIV, Henriette d'Angleterre, était sa belle-sœur, mais ayant si peu vécu, elle meurt à 26 ans, et put traverser l'histoire, au point d'ailleurs de faire partie de cette très belle galerie des 10 portraits illustré, écrit par Jean-Michel de la Comté pour illustrer la grandeur de l'esprit français. Nous lui demanderons, nous posons cette question à notre invité ce soir, puisque Jean-Michel de la Comté est notre invité. Pourquoi a-t-il choisi un portrait d'Henriette d'Angleterre dans son magnifique recueil « Grandeur de l'esprit français, 10 portraits » qu'il publie aux éditions de, du Cherche-Midi. Alors ce livre que lui consacre Jean-Michel l'a conté, est splendide et nous emmène loin, très loin, car l'auteur va jusqu'à évoquer la princesse de Clèves dans ce roman, en effet, de Madame de Lafayette. Car dans cette mort, cette agonie de quelques heures, eh bien, ce que nous propose Jean-Michel de la Comté, c'est tout le portrait de la jeunesse du grand siècle de Louis XIV et qu'il décrit d'une façon magnifique. Alors vous l'avez compris, chers auditeurs, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur Jean-Michel de la Comté pour ce portrait faisant partie de ce recueil qu'il a intitulé « Madame la Cour, la mort », donc portrait consacré à Henriette d'Angleterre. Jean-Michel de la Comté, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour évoquer ce portrait d'Henriette d'Angleterre. Nous sommes très heureux de vous recevoir à nouveau en direct. Je vous présente, je vous représente aux éditeurs de Radio Courtoisie qui vous connaissent bien. Vous êtes essayiste, vous êtes aussi éditeur... Excusez-moi, je commence très mal ma présentation. Mais ceci dit, vous êtes quand même essayiste. Vous êtes aussi écrivain, mais auparavant vous avez travaillé pendant 20 ans dans le domaine de la diplomatie culturelle à l'étranger. Vous avez enseigné la littérature française à l'université de Bordeaux-Montaigne, mais aussi à l'université Paris 8, et vous avez dirigé aux éditions Gallimard la collection Nos Vies. Alors, comme essayiste, vous êtes entre autres réputé, particulièrement réputé pour vos portraits littéraires de personnages historiques et de gens de lettres. Il s'agit, vous le précisez bien et vous y tenez, de portraits littéraires et non de biographies. Mais vous avez écrit aussi d'autres œuvres dans un domaine très différent, et notamment des romans. Je me permettrai ce soir d'en rappeler quelques-uns, si vous me le permettez, avant que nous abordions ce portrait particulier mais magnifique, parce qu'elle nous amène à évoquer la grande cour du roi, du jeune roi Louis XIV. Vous avez écrit Grandeur de l'esprit français, que nous évoquons ce soir tout d'abord, puisque c'est dans ce recueil Grandeur de l'esprit français, 10 portraits d'Ambroise Paré à Saint-Simon, que vous placez en effet le portrait d'Henriette d'Angleterre. On est un peu surpris de le trouver, ça sera l'une des premières questions que je vous poserai, en quoi Henriette d'Angleterre illustre justement la grandeur de l'esprit français, parce que elle se trouve quand même en très bonne compagnie. Je rappelle quelques-uns des personnages que vous présentez dans ce recueil. Il y a Ambroise Paré, il y a Montaigne, il y a Racine, Bossuet naturellement, La Bruyère, La Fontaine, Saint-Simon, et puis vous terminez par votre père. Et ça fera bien sûr l'objet aussi d'une émission. Et puis je précise aussi que vous avez écrit Les hommes et les femmes, notes sur l'esprit de notre temps, ça c'est chez Fayard en 2021. Notre langue française, Fayard en 2018, qui a reçu le Grand Prix Hervé Delouin de l'Académie française. Vous défendez la beauté et la grandeur de la langue, un thème qui vous est particulièrement cher. Et puis alors, deux livres que je n'avais pas mentionnés dans nos émissions précédentes, un qui m'a surpris, que vous avez écrit sous pseudonyme Jacques Sartor. Je ne sais pas qui est Jacques Sartor, c'est vous, mais pourquoi Jacques Sartor? Les affreux, chez Robert Laffont, c'est étonnant. Et puis aussi, lettre de consolation à un ami écrivain. En quoi voulez-vous consoler votre ami écrivain, Jean-Michel de la Comté?
Oh, c'est une affaire assez douloureuse, je pourrais en parler longuement, vous savez. D'ailleurs, récemment, j'étais invité par Alain Finkielkraut à son émission, il y a 3 semaines à peu près.
Sur réplique, hein?
Sur réplique, oui. Où il y avait également Pierre Assouline. Et il se trouve que cette lettre de consolation est venue sur le tapis d'une façon assez étonnante, comme un cheveu sur la soupe d'ailleurs. C'est un livre que j'ai écrit il y a une douzaine d'années. Lettre de consolation à un ami écrivain, parce que j'avais un ami, je vous la fais brève, hein, maintenant est mort, et qui était pendant des années directeur du livre, sous-directeur du livre aux affaires étrangères, et qui était un très bon poète, et il avait une 60aine d'années, il a eu un AVC qui l'a brisé. Il s'appelait Yves Mabin, et cet ami Yves Mabin a beaucoup servi la cause de la littérature, celle également des gens de lettres, mais également celle des journalistes, qu'il envoyait en mission, à qui il permettait de faire des conférences à l'étranger, tout ça. Et mon ami Mabin, lorsqu'il a eu cet AVC, qu'il a brisé, il a mis 15 ans avant de disparaître complètement, cet ami, je lui ai tendu la main, à un moment je l'aimais beaucoup, Yves Mabin, en lui proposant, j'étais éditeur à ce moment-là chez Gallimard, en lui proposant d'écrire un texte sur lui-même, sur sa vie, sur son bilan, ce qu'il a reçu comme une forme de bénédiction, si j'ose dire, en tout cas comme avec une, ça lui a redonné pour ces derniers temps, ça lui a redonné beaucoup de vie et de bonheur. Et lorsque ce livre a été publié, il y a une dizaine d'années à peu près. Une douzaine d'années donc, mon ami Yves Mabin, qui avait tellement servi toute la cause des gens de lettres et des journalistes, n'a eu aucun article. Et pourquoi n'a-t-il eu aucun article? Parce qu'il ne servait plus à rien, tout bêtement. Il ne servait plus à rien, et ça m'a mis en colère. Et j'ai donc écrit cette lettre de consolation à un ami écrivain en lui disant, ce livre lui est dédié. C'est pas exactement à lui que je m'adresse, mais c'est lui qui est derrière. Et où je lui dis, j'explique à cet ami, Yves Mabin, mais même s'il est un petit peu modifié dans le livre, dans un bref livre d'ailleurs, je dis, ne désespère pas. Parce que c'est vrai que, bon, on te laisse tomber, c'est exact, mais ton œuvre restera. Voilà, j'étais en colère. Et pourquoi j'étais en colère? Et je le demeure, mon cher, je demeure en colère de ce phénomène, surmédiatisation d'auteurs parfois bons, parfois très bons et très souvent médiocres, au détriment de gens qui sont très bons, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas la carte ou n'ont plus la carte. Et je trouve ça insupportable. C'est une, y a un trucage en la matière qui continue à me rendre furieux. Voilà. Et c'est l'aide de consolation, c'est une forme, et il y a de l'humour dedans, je ne veux pas non plus trop charger la barque, mais cela étant, il y a une colère, il y a de l'humour, il y a de la distance, il y a beaucoup d'affection et beaucoup de considération pour les gens qui écrivent et qui voient leurs manuscrits très souvent refusés sans explication. Et je dis à quel point c'est une douleur. Et la preuve de ce que j'annonce, c'est que j'ai reçu des tas de lettres de remerciements pour ce livre. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Michel Lacomté, pour ces explications touchantes, effectivement, sur votre ami poète. On peut espérer que le temps fait son œuvre, Jean-Michel de Lacomté.
Oh, je n'y croyais rien à ça.
Non.
C'est pas impossible. C'est pas absolument impossible. Je n'y croyais. Vous savez, Yves Mabey, il a écrit un livre absolument extraordinaire qui n'a eu aucun succès. Sauf, je dois le dire, puisque bon, personne ne s'y intéressera peut-être. Mais enfin, il y a Éric Chevillard, qui lui a fait un bel article dans le journal Le Monde, dans Le Monde des livres, un livre terrifiant, bouleversant, qui s'était Portrait de l'écrivain en déchet. Portrait de l'écrivain en déchet. Un livre insoutenable. C'est une œuvre qui n'a bénéficié d'aucune espèce de publicité, qui est passée à l'as, si je puis dire, d'une façon un peu triviale. Et c'est pourtant, c'est un livre absolument bouleversant. Voilà, c'est tout.
Votre livre aussi sur Henri d'Angleterre intitulé Madame la Cour, la mort est bouleversant aussi. On peut le vraiment, il faut le souligner, il était extrêmement émouvant. Mais on s'oppose la question, et c'est je l'ai souligné en introduction. Et puisqu'elle trouve sa place, enfin, Henriette d'Angleterre trouve de sa place parmi ces 10 portraits que vous nous proposez dans ce superbe recueil aux éditions Le Cherche Midi, Grandeur de l'esprit français, donc 10 portraits d'Ambroise Paré à Saint-Simon. Et la première question que je souhaitais vous poser, en quoi Henriette d'Angleterre illustre justement la grandeur de l'esprit français, elle qui n'a pas écrit, elle qui est morte à 26 ans?
D'abord, c'est le premier portrait que j'ai publié il y a maintenant pas mal de temps, à vrai dire. Hein. Il y a quoi, presque 35 ans, c'est vous dire. J'étais jeune encore en ce temps-là. C'est un personnage qui, justement, on parlait d'émouvant, oui. C'est un personnage qui m'émouvait. Qui m'émouvait. J'ai été publié pour la première fois, donc, dans la collection, très belle collection, qui malheureusement a disparu maintenant. Du fait de la mort de son fondateur et directeur, c'était Jean-Bertrand Pontalis. Cette collection s'appelait L'un et l'autre. Et comme il se trouve qu'il y avait eu quelques textes, d'ailleurs très beaux, qui a été 5 ou 6, qui avaient déjà été publiés dans cette édition, dans cette collection plus exactement. Et je m'étais dit, à l'époque, s'il y a un lieu, parce que les gens ignorent un peu ça souvent, s'il y a un lieu où j'aimerais être publié, parce que je m'y sentirais bien, c'est cette collection, L'un et l'autre. Et il se trouve que je portais à Henriette d'Angleterre, pour des raisons dont on va discuter certainement, qu'on va évoquer en tout cas, je lui portais une affection, une espèce de passion même, depuis pas mal de temps, même depuis fort longtemps au fond. Et elle a fait partie de l'un, c'est-à-dire là c'était l'une, elle, et l'autre, c'est-à-dire moi en tant qu'écrivain, puisque c'était le principe de la collection. Et à travers elle se déploie toute la grandeur, tout simplement, du règne de Louis XIV, avec ses ombres, voire ses ténèbres, mais aussi ses lumières. Et ce qui est intéressant avec Henriette d'Angleterre, c'est qu'elle a été c'est une sorte de star des premières années du règne de Louis XIV. Et toute cette période elle mérite une grande attention. Elle est très particulière. On va en parler, on va approfondir parce que je ne vais pas
Bien sûr.
tout déballer, si j'ose dire, maintenant. Mais c'est un personnage dont il faut savoir quand même quelque chose d'assez intéressant et qui en dit long, même sur notre époque. Anne Henriette d'Angleterre est un personnage qui a connu beaucoup de biographes, beaucoup. C'est une personnalité historique dont l'aura, dont l'importance même, dont le rôle à la cour de Louis XIV, dont le rôle dans la littérature, d'une certaine façon, elle était amie de Racine, c'est pas un hasard, a fait l'objet donc de nombreuses biographies au XIXe et au XXe siècle, jusqu'à il y a environ une cinquantaine d'années, 50-60 ans. Et depuis 60-70 ans, elle a perdu, plus rien n'a été écrit sur elle, pour ainsi dire. Il faut savoir quand même pourquoi, tout simplement parce que l'âge classique est en train de disparaître. La littérature de l'âge classique est en train de disparaître, non pas de la part des historiens, il y a toujours d'admirables historiens, c'est pas ça, mais sur la scène publique, sur la scène littéraire, l'âge classique est en danger, est en déclin, presque en voie d'effacement relativement. Et sa langue, et son esprit, et sa grandeur, et ses ombres, et tout ce que vous voudrez, toute son importance, en tout cas. Et je terminerai simplement ces quelques mots par le rappel du fait que Henriette d'Angleterre, qui était la nièce de Louis XIII, donc la fille de la sœur de Louis XIII, Henriette de France, il se trouve que Henriette d'Angleterre était l'une des amies les plus proches de Madame de Lafayette et de Madame de Sévigné. Donc elle a côtoyé, si vous voulez, les très grandes dames du règne. C'est une figure historique, une figure féminine extrêmement intéressante et extrêmement marquante. Voilà la première raison à mettre en avant.
Moi, Jean-Michel l'a compté, il n'y a pas que sa mort, alors, à évoquer, bien entendu. Vous commencez ce livre, ce portrait, par elle n'a laissé que sa mort, et dès le début, vous donnez quand même quelques pistes sur les raisons pour lesquelles elle a suscité tant d'attention, hein, ce sont vos termes, peu de décès ont bénéficié d'attentions aussi nombreuses, d'un intérêt aussi constant. Vous soulignez le mystère d'une mort soudaine. Hein, il s'est passé 9 heures entre le rafraîchissement qu'elle prend, une tasse de chicorée, et son décès. Et vous dites que cette violence inouïe, ce drame stupéfiant, eh bien, est l'une des raisons, en quelque sorte, de sa postérité, du fait que l'on parle d'elle, parce que sa mort a vraiment bouleversé, frappé son entourage.
Oui, vous avez tout à fait raison. L'une des raisons, justement, pour lesquelles elle a laissé une trace jusqu'à il y a 50-60 ans, mais vous verrez le rapprochement que je fais et pourquoi je signale cet écoulement du temps. C'est ce que vous avez rappelé vous-même tout à l'heure, à savoir l'oraison funèbre que Bossuet a faite d'elle à la basilique de Saint-Denis. Qui est une de ses plus belles oraisons, des plus émouvantes, parce que dans cette oraison, Bossuet se montre qui la connaissait bien et qui, d'une certaine façon, l'aimait. Elle était charmante, elle avait plein de charme en tout cas. Et Bossuet a fait son oraison funèbre, et ce qui était très remarquable, les témoins ont noté que tout le monde pleurait dans la basilique, tellement il était émouvant. Généralement, il n'est pas nécessairement émouvant, Bossuet. Il est autre chose, il est puissant, ce qui n'est pas la même chose. Dans Henriette d'Angleterre, il est émouvant, tout le monde pleure, et lui-même était sans doute fortement ému. Je vous rappelle simplement, si vous me permettez, M. Delcourt, j'aimerais lire quelques lignes.
Oui.
C'est pas le début de, mais c'est la première partie de l'oraison funèbre par Bossuet. Elle est assez connue d'ailleurs, ce que je vais lire. C'est assez connu. C'était connu du temps où lisait Bossuet. Bossuet, dont je dis en passant, l'un des plus grands prosateurs de la langue française, mais qui aujourd'hui est assez négligé, comme tellement de choses. Ô nuit désastreuse, ô nuit effroyable, où retentit tout à coup comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle. Madame se meurt. Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé à ce coup, comme si quelque tragique accident avait désolé sa famille? Au premier bruit d'un mal si étrange, on accourut à Saint-Cloud de toutes parts. On trouve tout consterné, excepté le cœur de cette princesse. Partout, on entend des cris. Partout, on voit la douleur et le désespoir et l'image de la mort. Le roi, la reine, monsieur, son époux donc, monsieur, toute la cour, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré. Et il me semble que je vois l'accomplissement de cette parole du prophète. Le roi pleurera, le prince sera désolé, et les mains tomberont au peuple de douleur et d'étonnement. Et ensuite, il poursuit, vous voyez, elle était, etc. Et c'est ça quand même. Madame se meurt, Madame est morte. Vous voyez, c'est une phrase qui est fort connue et qui a donné de l'éclat et en même temps, elle a donné de la mémoire, si je puis dire, à cette oraison funèbre. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'elle est morte très jeune, Henriette d'Angleterre. 26 ans, 27 ans. Les âges n'étaient pas toujours parfaitement définis. Il faut savoir quelque chose quand même, si vous vous rappelez ça. D'abord, la brutalité de toutes les morts dans cette époque. La mort est là, elle est suspendue au-dessus de toutes les têtes. Dans l'horreur, dans la terreur, dans la peur, en tout cas, du jugement dernier. Et puis la peur aussi de mourir, tout simplement. N'oublions pas, là c'est au début du siècle, au début du règne de Louis XIV. N'oublions pas la fin du règne de Louis XIV. C'est la même chose. Avec la mort des petits-fils, d'abord du fils de Louis XIV, et surtout de ses petits-fils, notamment du duc de Bourgogne. Louis XIV a 70 ans, 72 ans à l'époque, comme si les deux bouts de son règne étaient réunis. Au début de son règne, c'est Henriette d'Angleterre, et à la fin de son règne, c'est sa plus proche famille. Et comme vous le savez, comme les auditeurs le savent, Louis XV est l'arrière-petit-fils de Louis XIV, parce que ses petits-fils sont morts entre-temps, à l'exception de celui qui allait être Philippe V. C'est un aspect des choses. Oui, la jeunesse. Le côté surprenant, le côté. On a eu raison, des gens, des érudits ont tout à fait eu raison de noter qu'entre l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre et le sermon sur la mort de Bossuet, on retrouve les mêmes tonalités, la même inspiration. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent bien le sommet sur la mort, le sermon sur la mort, qui est un texte les plus puissants de notre langue. Dans ce genre-là, j'entends. Un petit peu comme l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. Ou aussi, d'ailleurs, d'un certain point de vue, l'oraison du Grand Condé. Vous savez, ce sont des choses. Moi, c'est pour ça que ça me passionne, ça, depuis toujours. Ça me passionne de continuer à faire vivre ces textes, cette sensibilité et ces événements. Mais au-delà des événements, cette sensibilité, cette mentalité extrêmement, extrêmement forte. De ce qui a été la France et dont il reste bien trop peu de choses.
Et vous nous faites revivre justement cette grandeur, cette beauté, aussi cette émotion. Et quand vous évoquez dans ce livre, hein, consacré donc à Henriette d'Angleterre et intitulé Madame la Cour, la mort, donc qui fait partie de ces 10 portraits que vous nous proposez dans votre recueil Grandeur de l'esprit français aux éditions du Cherche Midi, sur l'oraison de Bossuet, vous écrivez: Bossuet est un poète. Il force le public à n'envisager que la mort comme drame et comme leçon. Et vous
Oui.
ajoutez: Bossuet fit d'Henriette d'Angleterre un symbole, abrogeant la personne passagère faite d'humeur et de boue pour peindre une élue de Dieu. La question que je souhaitais vous poser, c'est quel est ce symbole? Quand vous écrivez que Bossuet fut d'elle un symbole, de quel symbole fait-il
C'est le
d'Henriette
symbole,
d'Angleterre?
oui, c'est le symbole d'une idée, d'une considération de Bossuet, d'une obsession presque de Bossuet, ce qui peut se comprendre vu le siècle où il était. D'une part, la gloire, dont chacun, dont ceux qui en tout cas en bénéficient, chacun se prévaut de la gloire, recherche la gloire, s'enivre de la gloire. Et d'autre part, le fait que nous ne sommes que poussière. C'est ça son grand truc. C'est assez simple, hein. La gloire, la richesse, la vanité, la façon dont l'homme se grandit à ses propres yeux, cette illusion extraordinaire. Mais là, je parle pour Bossuet. Je ne dis pas que c'est mon idée à moi. Je dis simplement c'est ce qu'il dit lui. C'est plus que ce qu'il dit. Il ne cesse d'y revenir dans toute son œuvre et toute sa vie. L'illusion d'être pour l'éternité, chaque individu, et en même temps de n'être pas grand-chose. C'est ainsi que, il a quelques phrases qui sont tout à fait extraordinaires. Vous voyez, la grande question qu'il se pose, lui, c'est, et ça joue aussi pour la période d'Angleterre, mais d'une façon beaucoup plus générale. C'est d'une part l'amour de soi-même poussé jusqu'au mépris de Dieu, ce qu'il condamne, et d'autre part, l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi, ce qui est naturellement ce qu'il réclame aux croyants. Vous voyez, c'est très chrétien, hein, on le comprend. Bon. En Royaume d'Angleterre, elle était prise entre les deux, d'une certaine façon, parce qu'il y avait un amour de soi, il ne peut pas le cacher, mais surtout, c'est tout le passage, et on voit ça chez d'autres, comme chez Condé. Un amour de soi un peu trop fort, l'amour de la gloire, l'amour du plaisir, etc., qu'il ne peut pas cacher parce qu'elle était connue comme telle, à cette élévation suprême qui consistait au fait que finalement, et a fortiori à la fin de son agonie, durant son agonie et au moment où elle est morte, parce qu'il rappelle tout ça, l'amour de Dieu poussé jusqu'à l'oubli de soi ou jusqu'au mépris de soi. Et vous voyez, cette double ambivalence de l'être, des êtres qui constituent un ressort extrêmement puissant au fait religieux. La modernité, aujourd'hui, nous le savons bien, grosso modo, c'est l'amour de soi poussé jusqu'à l'oubli de Dieu. À tort ou à raison, peu importe, c'est comme ça. Parfois, encore, ça existe, l'amour de Dieu poussé, non pas jusqu'au mépris de soi, mais jusqu'à la modération de soi, jusqu'à l'oubli de soi. Bon. Ce sont des fortes pensées, très simples du reste. Hein. Lui, ça le travaille. Et Henriette d'Angleterre, elle est, sous sa plume, si je puis dire, ou par sa voix, représentative de ce mouvement qui va de soi-même vers Dieu, pour l'époque. Hein. De l'adoration de soi à l'adoration de Dieu pleine et entière. Et il la félicite, et plus que ça, il la célèbre du fait que, peu à peu, elle est finalement abandonné son, où elle s'est éloignée de son goût du plaisir, de la gloire, du brillant, etc., pour enfin se retrouver en retrouvant Dieu et en retrouvant non pas la foi qu'elle n'avait jamais perdue, mais la manifestation de la foi. Je vais un peu vite en disant ça, mais en gros, c'est ça quand même. Vous voyez?
Vous écrivez encore sur cette homélie de Bossuet, l'enterrement d'Henriette d'Angleterre. Bossuet a invité le public à communier dans la peine, offrant un prêche baigné d'émotion, un prêche d'honnête homme, dégagé des raideurs scolastiques, comme si son éloquence s'était directement inspirée de la simplicité d'Henriette. Madame
Oui.
fut douce avec la mort, dit Bossuet, comme elle l'était envers tout le monde.
Oui, tout à fait. C'est intéressant de voir que Bossuet, qui lisait le latin dans le texte et dont la formation ecclésiastique, mais aussi linguistique, si j'ose dire, ou romaine, était poussée très très loin, avait cette particularité des vrais grands écrivains, c'est-à-dire que malgré toute cette formation, dont on aurait pu penser qu'elle l'aurait, chez certains, ça jouait, et ça jouait beaucoup même, stérilisée ou en tout cas enferrée dans une forme de scolastique, lui, il s'en est dégagé. Et d'ailleurs, c'est l'un de ses charmes à Bossuet, l'une de ses grandeurs du reste, c'est qu'il était capable d'improviser des sermons pendant 1 heure, 2 heures. Il les improvisait, il avait une trame. Il avait comme ça, il y avait songé et il improvisait. Les oraisons funèbres, elles ne sont pas improvisées, il les a travaillées, mais il y a une liberté de parole, une liberté de rythme. C'est pour ça que ça donne une langue aussi belle et aussi. J'aime beaucoup rappeler le fait que Paul Valéry, qui n'était pas tout à fait un médiocre en matière de poésie, le prenait pour le plus grand littérateur, le plus grand prosateur de notre langue, que Claudel, qui n'était pas un clou dans la matière, le tenait également pour l'un des plus grands écrivains ou prosateurs de notre langue, que jusqu'à une cinquantaine d'années, Bossuet était considéré, même une quarantaine d'années, était considéré comme un des auteurs absolument majeurs de notre littérature. Et il y aurait de quoi désespérer devant non pas le discrédit, mais l'oubli, l'effacement dont il souffre, si, il y aurait de quoi désespérer, si, et là je rejoins un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure sur une petite possible résurrection ou réapparition, je ne sais pas. Il se trouve que, et j'aime le rappeler aussi quand j'en ai l'occasion, la maison d'édition Les Belles Lettres, et c'est admirable ce qu'elle fait là, sur ce plan, notamment. Elle vient de rééditer et elle continue à rééditer l'ensemble des œuvres littéraires de Bossuet. Ça n'avait pas été fait, à ma connaissance, depuis 80 ans peut-être.
Donc
Oui,
on...
et donc c'est pour ça qu'en même temps, Henriette d'Angleterre, c'est étrange à dire, elle représente Bossuet et Bossuet la représente. Je veux dire, il y a quelque chose, elle représente Bossuet, je veux dire, dans la mesure où son oraison est tellement connue. Les gens qui connaissent un peu ça savent que quand on dit « Ah, Madame Summer, Madame est morte », c'est Bossuet. À mon époque, quand j'étais jeune, on l'apprenait à l'école, ça. Moi, son oraison, j'en ai appris à l'école une partie, au lycée, voilà un certain temps. Je l'ai fait apprendre à mes étudiants quand j'étais encore en fac à Paris. Et ça avait du sens. Et donc, Madame, elle existe encore beaucoup par ça, mais il n'y a pas que ça, parce que, là, on va revenir peut-être au projet, enfin, à la question première. De notre discussion, de notre conversation, c'est le rôle de sa mort. À travers Bossuet, mais aussi par tout ce qu'elle a voulu dire, cette mort, tout ce qui s'est passé. Et vous avez sans doute rappelé le fait que Henriette d'Angleterre avait été considérée, envoyée même, comme par Louis XIV, comme une ambassadrice auprès de son frère Charles II. Il y a un côté politique et
Oui.
diplomatique qui m'a beaucoup intéressé aussi à l'époque.
Alors, nous allons effectivement en parler parce que il faut maintenant, il nous faut parler de la vie d'Henriette d'Angleterre, même si elle est morte à 26 ans. Son histoire est quand même particulièrement intéressante. C'est une Stuart, donc marquée par un destin tragique, qui est celui de la mort de son père, décapité. Et puis, c'est l'épouse de Philippe d'Orléans, donc avec toute cette vie à la cour, toutes ces amitiés, vous en avez déjà rappelé quelques-unes, notamment avec Madame de Sévigné. Parler d'Henriette d'Angleterre, c'est parler aussi de Philippe d'Orléans, c'est parler, comme vous venez de le rappeler, de la diplomatie à la cour, parce que là, on découvre grâce à vous qu'elle a eu un rôle important dans un traité entre le Royaume de France et l'Angleterre avec son frère Charles II, hein, je crois.
Oui.
Et puis il y a effectivement cette mort tragique, parce que là nous avons évoqué Bossuet, nous avons évoqué la violence, quelques heures d'agonie seulement. Eh bien, il faudra parler de la mort proprement dite, qui a déchaîné si, les passions historiques. Hein. De quoi est-elle morte? A-t-elle été empoisonnée?
Oui.
Et puis à la fin de votre livre, de votre portrait, Jean-Michel Lacontey, il y a cette, vous nous amenez sur des pistes passionnantes, qui sont notamment celles qui concernent l'ouvrage de Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves. Je vous propose, si vous voulez bien, que nous évoquions tout cela ensemble,
Bien sûr.
jusqu'à la fin de cette émission. Donc commencez par le début, si vous voulez. C'est une Stuart, qu'elle a été. Quels sont ses parents? Quelle a été son enfance? Comment s'est-elle en effet retrouvée à la cour de France, épouse de Philippe d'Orléans? Et là, effectivement, vous décrivez de manière formidable dans votre livre la vie qu'elle mène, à la fois
Oui,
elle et
tout à fait.
Philippe d'Orléans d'ailleurs. Et ce n'est pas tout à fait quand même. Vous nous faites découvrir la cour, cette jeune cour, puisque c'est la jeunesse du roi Louis XIV, pas forcément sous des aspects très séduisant.
Non, c'est vrai, c'est sûr. C'est compliqué, oui. Ouais, là aussi, c'est plus qu'ambivalent. Enfin, en tout cas, c'est une cour en même temps extrêmement brillante, extrêmement dure. Enfin, c'est la cour, quoi. Mais Concernant Henriette d'Angleterre, en deux mots, c'est là donc sa mère était Henriette de France, l'une des sœurs de Louis XIII, et son père était Charles Ier d'Angleterre, qui a été décapité.
Par
Donc,
Cromwell, hein, c'est
par Cromwell, exactement.
oui.
Là-dessus, alors c'est toute la question religieuse derrière, mais je passe là-dessus.
Oui.
Henriette de France s'est réfugiée en France, auprès de son, non pas de son frère, parce que c'est après la mort de Louis XIII, mais auprès de d'Anne d'Autriche, et ensuite de Louis XIV, avec sa petite fille, sa fillette, la petite Henriette d'Angleterre. Et elles sont. Alors, Henriette de France était, comme souvent d'ailleurs, était très, très croyante. C'est elle qui a fondé Chaillot, par exemple, le monastère de Chaillot. Et la petite Henriette d'Angleterre, ben, elle a vécu dans l'ombre de sa mère, qui était assez contraignante, cette ombre. Et elle a bien connu aussi, enfin bien connu, elle a fréquenté naturellement les enfants d'Anne d'Autriche, à savoir Louis XIV et Philippe d'Orléans, son frère cadet. Et pour des raisons de politique évidente, on lui a choisi, Henriette d'Angleterre, on lui a choisi comme époux, elle avait 16-17 ans, on lui a choisi le frère de Louis XIV, Philippe d'Orléans, monsieur. Et l'épouse de monsieur, bah, c'est madame. Voilà. Hein? Depuis le fils d'Orléans, enfin, je ne sais pas ces détails, l'oncle de Louis XIV. Donc, monsieur, qui a une vingtaine d'années, Henriette d'Angleterre, qui a 17 ans à peu près, qui était une jeune fille un peu gringalette, toute maigre, assez pâle, de mauvaises dents, plutôt un petit peu voûtée. Donc on pourrait se dire, c'était pas une merveille, oui, mais elle avait un charme extraordinaire et un charisme tout à fait étonnant. Et elle a ajouté son charme à la cour du jeune Louis XIV, dont je rappelle que son accession au pouvoir personnel, il avait 22 ans. C'est fort tôt. Hein. C'est une cour extraordinairement jeune. Et l'éclat d'Henriette d'Angleterre se mêle à cet éclat et renforce cet éclat. Henriette d'Angleterre, pour bien se rendre compte, pour l'époque, donc c'est les 10 premières années du règne de Louis XIV, du règne personnel plutôt de Louis XIV, Henriette d'Angleterre, c'est Diana, la princesse Diana. C'est la même chose. C'est le même genre de choses. C'est l'éclat, c'est comme ça. C'est un peu la star de la cour. Après sa mort, ça change. Parce que monsieur, lui, se remarie, pas du tout avec le même genre de femme, et les choses changent. Mais les 10 premières années, jusqu'à la mort d'Henriette d'Angleterre, ça a été ça, cette cour jeune, où les femmes, d'ailleurs, soit dit en passant, sur le plan théâtral, pour la première fois, jouent en scène, remplaçant des hommes. C'est une espèce d'efflorescence, en même temps, pas de la puissance, mais de la liberté, c'est trop dire, des femmes, quand même, un élargissement de leur capacité, de leur fonction, de leur représentation, de leur pouvoir, d'ailleurs, de leur pouvoir. C'est tout ça qui est mêlé. Et Henriette d'Angleterre, elle incarne tout ça en même temps, parce que c'est une personnalité de premier plan, très surveillée, qui a un mari qui est impossible. C'est monsieur, le petit monsieur, tout grassouillet, très homosexuel, avec qui elle s'entend très très mal, qui lui fait quand même des enfants qui meurent tous, sauf une. Et donc c'est une vie en même temps extrêmement brillante et franchement malheureuse. C'est ça Henriette d'Angleterre. Et elle trouve d'ailleurs un certain réconfort, bien évidemment, auprès de Bossuet. Bossuet l'aimait beaucoup, réellement. Elle trouve du réconfort auprès de gens comme Racine et elle trouve du réconfort encore plus grand auprès de Madame de Lafayette. Parce qu'elle dit à un moment, elle dit, avant de tomber malade, bien sûr, enfin avant de mourir, bien évidemment, mais avant son voyage en Angleterre, au terme duquel elle va avoir Cette crise dont on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, elle dit à Madame de Lafayette, vous écrivez bien, écrivez-moi de bons mémoires, c'est-à-dire écrivez ma propre vie. Et d'ailleurs, ce qu'on connaît d'Henriette d'Angleterre, c'est beaucoup par Madame de Lafayette. Et c'est elle qui raconte la mort d'Henriette d'Angleterre d'une façon déchirante. Et ça s'appelle La vie de Madame d'Henriette d'Angleterre, tout simplement, qui est un livre assez bref, mais extrêmement, extrêmement marquant, extrêmement émouvant. C'est Madame de Lafayette, bien évidemment. Alors moi, ma position, on y reviendra peut-être, j'ai lu, si vous voulez, l'histoire d'Henriette d'Angleterre, pour moi, elle est très, très liée à la princesse de Clèves. Il y a, je crois, dans la princesse de Clèves, à mon avis, la princesse de Clèves, c'est 1678, l'apparition. Henriette d'Angleterre, elle meurt 8 ans avant. Je pense qu'il y a dans la princesse de Clèves, dans l'héroïne de Madame de Lafayette, je pense qu'il y a plus qu'une trace de Madame. Il y a un souvenir de Madame, mais plus qu'un souvenir de Madame. Je ne dis pas que c'est Madame, la duchesse de Clèves, la princesse de Clèves. Mais il faut bien savoir quelque chose. Elle a 17 ans lorsqu'elle se marie, elle est toute jeune. Et la princesse de Clèves, elle est dans sa 15e, dans sa 16e année. Elle a 15 ans. Et c'est tout ça, c'est une grande jeunesse. C'est de la prime jeunesse. Et c'est très étonnant. C'est ça. On peut faire une pause là-dessus. Mais c'est très, très marquant quand même, ce lien qui est tellement bouleversant entre la prime jeunesse et la mort. Voilà. La prime jeunesse et la mort. Et il y a là quelque chose d'extrêmement, extrêmement fort. Parce que, bien évidemment, on peut penser que les deux sont complètement contradictoires. Ben non, la prime jeunesse n'empêche absolument pas la mort. La mort survient soudain et la mort réduit toute cette jeunesse, toute cette floraison de l'être. Elle le réduit à néant en très peu de temps. Et vous voyez, ça donne un monde étrange quand même. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, être jeune, on a l'impression que ça dure toute l'éternité et qu'il faut être jeune très longtemps, et tant mieux d'ailleurs, si par certains côtés, c'est formidable. Mais enfin, à l'époque, ce n'est pas du tout ça. À l'époque, ce n'est pas du tout ça. La jeunesse et la mort s'épousent l'une l'autre. La mort est l'épouse de la jeunesse, comme la jeunesse est l'épouse de la mort. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui peut nourrir une sensibilité. Et essayer d'exprimer ça dans un texte ou dans un portrait, c'est une gageure qui m'a paru nécessaire de tenter et que je ne regrette pas parce que je trouve que c'est bouleversant. Et simplement, d'un mot, Monsieur Delcourt, d'un mot, un bébé qui meurt. Un bébé, je ne dis pas seulement une jeunesse, une jeune fille ou un jeune homme, un bébé qui meurt, c'est totalement bouleversant. Eh bien, un jeune homme ou une jeune fille qui meurt, c'est totalement bouleversant. Ça devrait être incompatible, la jeunesse et la mort, et pourtant, ce n'est pas le cas.
En quoi elle aurait pu-elle servir de modèle à la princesse de Clèves de Madame de Lafayette?
D'abord par l'âge, au début, par les malheurs de l'amour. Parce que Henriette d'Angleterre, c'est aussi les malheurs de l'amour. C'est-à-dire que aimer, c'est toute la question de l'amour à la cour. C'est la recherche d'un amour. Soit l'amour est presque impossible avec la princesse de Clèves, avec l'époux, avec son mari, le prince de Clèves, et puis et encore bien plus avec le prince de Nemours, d'où le renoncement. Il y a quelque chose de désespéré là-dedans. C'est des tragédies. C'est des tragédies. Et c'est ces tragédies. Qui se rejoignent dès lors que le personnage qui a le plus marqué, si je puis dire, Madame de Lafayette, c'est la princesse de Clèves. Et également, c'est Madame. On ne se rend pas compte à quel point une personne comme Madame, c'est la question de l'amitié en ce siècle-là entre les grandes dames. Madame de Lafayette était nettement plus âgée que Madame, hein. Mais elle était son intime, eu égard au fait que Madame était quand même de sang royal, donc elle est bien au-dessus. Mais enfin, Madame de Lafayette était une très grande dame en même temps. Et cette intimité qu'elles ont pu avoir, cette sensibilité commune, c'est le sort, la situation de la femme qui n'est pas facile, même si les femmes accèdent à une forme pas de gloire, mais une forme de grandeur elle-même, ou d'éclat en tout cas, d'importance évidemment, et d'éclat. C'est pas du tout les petites femmes qui sont cachées à la vue du public, hein, pas du tout. Très loin de là, elles existent très fortement à la cour. La princesse de Clèves, dès qu'elle paraît à la cour, elle émerveille tout le monde. Madame, à la cour, elle émerveille tout le monde. Ce sont des stars à leur manière. Et les deux, leur vie est une tragédie.
Comment t'expliquez-vous, puisque nous évoquons le personnage de la princesse de Clèves, comment t'expliquez-vous qu'elle n'épouse pas Nemours, alors que le prince de Clèves est décédé, la voie est libre, elle est libre, elle peut épouser Nemours, Nemours l'aime, elle aime Nemours, elle ne l'épouse pas. Alors je ne sais pas si le personnage d'Anne Henriette d'Angleterre éclaire cette décision de la princesse de Clèves de ne pas épouser Nemours.
Bah, en première analyse, si vous voulez, je dirais que déjà, il y a l'énigme de la mort de Madame Henriette d'Angleterre. Il y a ce mystère. On ne sait pas de quoi elle est morte. C'est mystérieux. D'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit à l'époque. C'est mystérieux.
Nous allons en parler, bien sûr,
On va
hein.
en parler.
Ah oui, c'est un point très important.
Oui. Alors, vous voyez. Il y a cette énigme-là, ce mystère, ces doutes, etc., d'une part. Et de la même manière, il y a le mystère du renoncement, qui est une forme de mort aussi, une forme de mort sociale. Madame, elle meurt d'une façon comme une sainte, presque, hein, et la princesse de Clèves, elle s'éloigne de la cour pour aller dans une maison religieuse, un peu comme une sainte. C'est un renoncement, elle sort du monde. De la même manière que Henriette d'Angleterre, elle sort du monde, mais pour des raisons, elle, de santé, bien sûr, parce qu'elle meurt. C'est différent, mais les deux meurent d'une façon tragique et tout à fait inopinée. Ça, c'est une chose. Quant au renoncement lui-même de la princesse de Clèves, cher monsieur Delcourt, c'est une question que je me poserai jusqu'à la fin de mes jours. Parce que ça fait partie de l'extraordinaire puissance de ce roman, La princesse de Clèves. Pourquoi renonce-t-elle? Elle n'a aucune raison rationnelle, si je puis dire. Aucun motif de rationnel, elle le dit elle-même. Elle n'a aucun motif de renoncer à Nemours. Tout l'y autorise, sauf un certain nombre de choses, la culpabilité, et puis la peur de la jalousie, et puis un empêchement. Alors, j'ai entendu des thèses là-dessus, c'est par augustinisme, c'est par ceci, c'est par cela. Bon, oui, pourquoi pas, c'est vrai. Mais ça reste un mystère. Mais c'est un mystère, c'est pas le lieu d'en parler ce soir, mais on peut même retourner à la limite la question à tout le monde. Je dis bien à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on aime? Pourquoi est-ce qu'on aime? Pourquoi est-ce qu'elle aime Nemours comme ça, la princesse de Clèves? Pourquoi est-ce que madame Henriette d'Angleterre, elle aime un personnage assez fascinant qui s'appelait le comte de
Ah, il
Guiche.
faut en parler, il faut que vous nous en parliez,
Vous
parce
voyez?
que dans votre portrait, vous parlez bien sûr de ses amours, l'amour du roi que. Ah, Louis XIV était amoureux 3 mois d'elle, c'est ce que vous écrivez, et
Oui.
puis elle, l'amour qu'elle a eu pour le comte de Guiche. Il
Oui.
faut que vous nous en parliez.
Le comte de Guiche est un personnage que j'aime beaucoup, qui est assez fascinant. C'est le comte de Guiche, il était gouverneur du Béarn, il vient du Midi sud-ouest. C'est un jeune homme qui était, bon, il était bisexuel, Guiche. Il était l'amant de monsieur, mais semble-t-il, il a été quand même très fortement épris d'Henriette d'Angleterre, qui elle-même a été sans doute amoureuse de lui, à peu près le même âge. Lui, c'est un chevalier, un homme qui est d'un courage extraordinaire, comme on était à l'époque, vous savez, à cette époque-là et à d'autres époques du reste, avant, et puis un petit peu après aussi encore. Personnage qui est en même temps un homme de plaisir. Lui était très cultivé, ce qui n'était pas si fréquent chez les nobles. Et en même temps, il était d'un courage extraordinaire, d'une témérité, d'une intrépidité absolument extraordinaire. Il avait une insolence, une morgue, une liberté, quoi. C'est un personnage de grande taille pour l'époque, assez grande taille. Il était assez beau, certainement. Cheveux noirs, etc. Et il lui a plu comme il plaisait. que son père, le père de Guiche. Il y a une scène que je rappelle rapidement dans mon portrait, où le comte de Gramont, le père de Guiche, adorait son fils. Et lorsque Guiche, après le passage du Rhin, en 72-73, est mort, il y a une page de Madame de Sévigné qui est extrêmement émouvante sur la réaction du père, parce que c'était pas si fréquent. Et le père, donc le comte de Gramont, tellement bouleversé par la mort de Guiche qu'il pleure devant tout le monde. C'était pas très fréquent, ça, quand même, de cette manière-là, en tout cas. Et disant que c'est que par ses fils que j'ai connu les bonheurs de ma vie. C'est un personnage très étonnant, Guiche, qui en même temps, que Louis XIV aimait beaucoup, et en même temps, il le trouvait tellement insolent qu'il l'a exilé plusieurs fois. Et alors là, il se passe, et j'insiste pas, mais je réserve 2, 3, 4 pages parce que je trouve ça extraordinaire. Guiche est exilé. Il va avec son frère, Louvigny, il va combattre en Moscovie, c'est-à-dire au fin fond de l'Europe, pendant 2 ans. Il va chercher la gloire, il va chercher la guerre, il va chercher le combat, il va chercher. Il peut pas vivre comme ça. Il a besoin d'exploits, il a besoin de. C'est un aventurier à sa manière, d'un courage incroyable. Il stupéfie les Polonais pour qui, dans l'armée desquels il combat, il le trouve d'un courage insensé. Il revient en France, ensuite il passe le Rhin. C'est la grande bataille de 72, le passage du Rhin, à la tête de ses troupes. Enfin, c'est un personnage éclatant, un personnage éblouissant. Et naturellement, Madame est complètement impressionnée par lui. Mais il correspond à ce qu'elle est en même temps. Elle aussi est un éblouissement pour la cour. Ce sont deux soleils, si je puis dire, ou deux astres en tout cas. Et en même temps, l'amour est presque impossible parce que l'adultère, lorsqu'il est secret, il n'y a pas de problème, mais il est assez peu secret à la cour, on sait tout. Et donc, Madame ne peut pas évidemment se livrer tout à fait à sa passion pour Guiche, lui non plus. Donc, ils ont peut-être couché ensemble 2, 3 fois, peut-être, tout au plus, toujours en se cachant.
Et
C'est un personnage.
Mais vous décrivez dans votre portrait d'Anne Henriette d'Angleterre, Madame la Cour, la mort, que vous publiez donc parmi ce recueil de 10 portraits, Grandeur de l'esprit français aux éditions du Cherche Midi, Jean-Michel de la Comté, vous évoquez une anecdote, que Guiche a été sauvé pendant un de ses combats par un portrait que Madame lui avait donné.
Ah oui, tout à fait. Tout à
Ça,
fait.
c'est une réalité.
Semble-t-il. Vous savez, c'est en même
Ouais.
temps, comme on dit, c'est un topos. C'est-à-dire, c'est un cas qui est assez, une aventure, comment dire, assez romanesque, qui n'est pas liée, qui n'est pas réservée à Guiche. Mais il est vrai que c'est ce qu'il disait en tout cas. Mais c'est une aventure qui pouvait arriver, puisque les hommes qui étaient amoureux d'une femme, très souvent, ou qui étaient aimés d'une femme, avaient leur portrait sur eux-mêmes et qui étaient en bois très dur et qui pouvaient éventuellement préserver ou parer le choc, l'impact d'une balle. Donc c'est probablement vrai, c'est pas sûr, mais c'est possible.
Jean-Michel de la Comté, nous devons écouter un message de la radio. Nous en profitons pour faire une petite pause musicale. Vous restez bien
Très
en
bien.
ligne et nous écoutons Jean-Baptiste Lully, l'ouverture de Psyché.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir en cette deuxième partie d'émission Jean-Michel de la Comté, parce qu'il publie un superbe recueil intitulé « Grandeur de l'esprit français, 10 portraits d'Ambroise Paré à Saint-Simon aux éditions de Gerche Midi ». Et parmi ces 10 portraits, il y a un portrait très émouvant d'Anne Henriette d'Angleterre. Jean-Michel de la Comté, nous avons un message d'auditeur que je vous propose, qui vous pose cette question. Là, on parle de nouveau de Bossuet. Combien de temps duraient les oraisons funèbres de Bossuet ?
Ouais, elles pouvaient durer une heure et demie. Parce qu'elles sont longues. Hein. Comme ces panégyriques, d'ailleurs. Ce sont des moments très, très puissants, très, très forts. Hein. Oui, je dirais ça. Je dirais peut-être une heure et demie, oui.
Dans votre portrait, vous déplorez l'absence de source concernant Henriette d'Angleterre, ce qui fait qu'on a beaucoup brodé, en fait, beaucoup imaginé sa vie et puis ce qu'elle était. Et étonnamment, vous dites qu'elle a beaucoup écrit, beaucoup de lettres, mais qu'il en reste très peu. Elles ont toutes disparu. J'aurais voulu savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intentionnel au fait qu'elles aient toutes disparu, mais parallèlement, alors vous l'avez décrite comme une personne pas forcément très jolie, mais avec énormément de charme, un soleil, quelque sorte, de la cour. C'est pour ça que sa mort a particulièrement frappé. Louis XIV a été amoureux quelques mois de ce soleil. Vous avez décrit sa liaison aussi avec un personnage complètement hors norme, qui est celui du comte de Guiche. Je souhaitais savoir, parce que vous l'évoquez aussi dans votre livre, ce qu'en disaient ceux qui ont écrit et dont nous avons conservé les écrits. Il y a Madame de Sévigné, bien sûr, il y a Bussy-Rabe Butin, et aussi un autre personnage, lui qui a souffert en quelque sorte des décisions royales, mais dont vous faites une description sympathique, qui est Connac. Gosnac, je ne sais pas ce que vous voulez en dire. Alors la question, c'est que disaient toutes ces personnes d'Anne Henriette d'Angleterre ? Comment la décrivait-il ?
Généralement, elle recevait des louanges, hein, c'est ça qui en est resté. Encore une fois, c'était un personnage. Il y a deux choses. Il y a ce qui se disait et publiait en France et ce qui se publiait à l'étranger, c'est-à-dire essentiellement, pas tellement en Angleterre d'ailleurs, non, mais en Hollande. Ce qui venait de Hollande, c'était très critique, mais ce n'était pas tellement Madame qui était critiquée, c'était le roi à travers elle. Quant à la France, généralement, elle jouissait d'une bonne réputation. Maintenant, ce que les gens disaient par derrière, on en a quelques échos. Il y a des gens qui ne l'aimaient pas.
Comme en Autriche, par exemple, la reine.
Par exemple, absolument.
Pour quelle raison, d'ailleurs ?
Bon, elle la trouvait insouciante, superficielle, ou elle trouvait qu'elle pouvait être... Anne d'Autriche est une personne qui est très proche de Bossuet, d'ailleurs, est une personne qui était très pieuse et qui se voulait sévère. Je dis qui se voulait parce que elle l'était, mais enfin, en même temps, elle était un petit peu née par le bout du nez par ses fils, mais seulement pour une part. Et donc, elle lui reprochait d'être virevoltée, de son goût des dents de la danse, elle lui reprochait un peu sa jeunesse en même temps. Et puis de bien aimer plaire, de séduire, elle était séduisante. Bon, voilà, c'est des plaintes qu'on trouve assez souvent, parfois chez les belles-mères. Il y avait elle. Sinon, il y avait... comme partout, il y a des mauvaises langues, il y avait des pamphlets, il y avait des choses comme ça, naturellement. Mais pas tellement contre, encore une fois, pas tellement contre Henriette d'Angleterre, même si elle était l'objet de critique. C'est plutôt contre le système, contre la cour, contre le roi, contre les grands, vous voyez, contre la France, également. Comme on peut voir aujourd'hui, hein, c'est on peut avoir des échos tout à fait déplaisants sur tel ou tel personnage, un peu trop en vue. Jalousie, envie, tout ce que vous voudrez. Truc habituel, hein. C'est pas propre à Henriette d'Angleterre, qui elle-même était quand même plutôt préservée, je crois, parce que beaucoup de gens l'aimaient beaucoup. Elle avait la réputation d'être douce. Bon, maintenant, les avis divergeaient, mais ça, c'est comme partout. Quant aux sources sur elle, il y en
Oui.
a sur ses lettres, tout ça. Les lettres, c'est essentiellement les lettres qu'elle a envoyées, enfin les échanges épistolaires avec son frère Charles II, le roi d'Angleterre de l'époque, dont elle était très très proche. Ils étaient l'un et l'autre très proches, les deux. Il reste quelques lettres d'ailleurs qui ont été, que moi j'ai lues en anglais, parce qu'elles ont été publiées en anglais. Il reste très peu de choses en France. Il reste des tableaux où elle apparaît, la Madame, enfin Henriette d'Angleterre. Mais elle a vécu peu de temps. C'était un personnage important, mais représentez-vous, je sais pas, je prends l'exemple de Diana. S'il n'y avait pas les photos, s'il n'y avait pas la presse, parce que ça n'existait pas à l'époque, on ne connaîtrait pas nécessairement grand-chose sur elle. Hein. Je sais pas si dans 3 ans, dans 3 siècles, on parlera de Diana, si on dirait, ah ben, on a plein. Oui, enfin, on pourra en parler parce qu'il y a plein de sources avec elle, parce que c'est l'époque qui permet ça. Pour l'époque d'Henriette d'Angleterre, ce n'est pas le cas du tout. Il y avait beaucoup d'ignorance, beaucoup de suppositions, il y avait beaucoup de secrets. Et puis aussi, sur les lettres, il y en a qui ont disparu peut-être parce que tout simplement pour des raisons politiques. Comme vous le savez, les postes de l'époque ouvraient le courrier. Alors il y a peut-être eu des choses qui ont été supprimées, j'en sais rien, moi. Ce qui a surtout intrigué beaucoup, beaucoup, c'est sa mort. Il y a deux choses qui ont intrigué, encore une fois. C'est le rayonnement qu'elle a eu, qui a beaucoup touché ses biographes, et puis les raisons de sa mort.
Alors nous allons bien sûr parler de sa mort, nous terminerons par ça, naturellement, Jean-Michel de la Comté, mais auparavant, je souhaitais aussi évoquer quelques sujets que vous développez dans votre livre, dans le portrait que vous consacrez à Henriette d'Angleterre, Madame la Cour, la mort, aux éditions donc du Cherche Midi. La première chose que je souhaitais évoquer avec vous, c'est la relation avec son mari Philippe d'Orléans, donc forcément relation très particulière. Philippe d'Orléans avait des liaisons, et notamment avec celui que vous appelez le Cupide à tête d'ange, le chevalier de Lorraine. Et on est très surpris de la manière dont se déroule cette relation, parce que vous dites que Philippe d'Orléans est terriblement jaloux d'elle. Alors
Oui,
ça, c'est difficile à comprendre.
c'est vrai. C'est vrai. Il a réussi à lui faire quelques enfants quand même.
Oui, mais
D'ailleurs,
qui sont morts.
oui,
Ça a été là aussi des épreuves épouvantables, avec ce duc de Valentinois notamment, dont vous dites que ça a eu des conséquences sur le comportement, hein, de Philippe d'Orléans.
sans doute, il a été très déçu. Mais en même temps, bon, il avait assez de désir d'elle pour lui faire des enfants, malgré tout. Enfin, de toute évidence, il était. Ce que Louis XIV lui reprochait, d'ailleurs, mais pas plus, hein. Il aimait les hommes et les jeunes hommes. Et je dois dire que pas seulement les valets, les gens d'écurie. En fait, il était très, très ouvert, si j'ose dire, à toutes les aventures masculines. Bon. Mais en effet, vous avez raison de le noter, il était effroyablement jaloux. Je crois qu'il était jaloux. Quand on dit jaloux, je pense que ce n'est pas tellement sexuellement qu'il était jaloux. Pas pour des raisons sexuelles ou amoureuses. Je ne pense pas qu'il était amoureux de sa femme, d'Henriette. Elle n'était pas amoureuse de lui, d'ailleurs, elle non plus. Non, je pense qu'au fond, sa jalousie était plus une jalousie devant l'éclat qu'elle avait, justement. Le fait qu'à sa manière. C'est un personnage intéressant, monsieur. Hein. C'est un petit bonhomme tout grassouillet, avec plein de bagues, fardé, tout ça. Et en même temps, un personnage, un peu comme Guiche d'ailleurs, extrêmement courageux. Extrêmement courageux. Et comme vous le savez, il a été politiquement châtré par son frère, par Louis XIV. Alors ça, c'est le souvenir de Louis XIII et de Gaston d'Orléans. Le frère cadet ne doit d'aucune manière avoir du pouvoir. Et donc, il l'enfermait, si je puis dire, à la cour, mais en lui accordant tout le reste, la fortune, les plaisirs, la liberté, ce que vous voulez, mais pas de pouvoir politique. Et je pense que la jalousie de monsieur, elle s'est accentuée, elle était particulièrement vive lorsque Henriette d'Angleterre a été chargée d'une mission diplomatique auprès de Charles II, c'est-à-dire une mission diplomatique extrêmement importante. Et lui, donc politiquement, elle a eu un rôle. Elle avait un rôle et une fonction politique. Madame, mais pas du tout monsieur, qui n'en avait aucun. Donc je pense qu'il y avait une grande part de sa jalousie de cette nature-là, non pas sentimentale, mais politique. Et de vanité aussi. Il était jaloux, comme il était envieux en même temps, et lui en voulait de cette capacité qu'elle avait de jouer un rôle d'ambassadrice. C'est ça aussi qui a énormément joué. Hein?
Oui. Alors je vous propose, si vous voulez bien, Jean-Michel Lecointre, que vous évoquiez justement cette mission diplomatique en Angleterre, parce que lorsque vous dites qu'elle n'a laissé que sa mort, c'est quand même une mission diplomatique qu'elle a brillamment menée.
Oui, tout à fait. La mission qu'elle a amenée, elle a été assez brève d'ailleurs, c'est au mois de juin, mai-juin 1670. Elle est envoyée par Louis XIV pour essayer de, moyennant finance d'ailleurs, très largement, pour une double raison, de renforcer l'alliance de la France et de l'Angleterre contre les Provinces unies, pour aller vite, la Hollande pour aller vite, et d'une part, et d'autre part, pour ramener l'Église gallicane dans le sein de du catholicisme, ou de resserrer les liens entre Rome et Londres sous cet angle, voyez, et Paris et Londres. Donc c'était dans le cadre géopolitique de l'époque, souder la France et l'Angleterre. C'est pour ça que d'un point de vue politico-diplomatique, la mort d'Henriette d'Angleterre était un problème, un vrai, enfin peut-être pas une catastrophe, mais c'était un vrai problème pour plus que ça, c'était plus qu'une déception. Pour Louis XIV, pour le pouvoir français, pour la cour, et bien sûr pour Charles II et pour l'Angleterre. Après, les choses n'ont pas eu la suite que Louis XIV espérait pour l'alliance avec l'Angleterre. C'était ça, sa mission. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on s'est dit, elle a cette mission à accomplir, n'a-t-elle pas été empoisonnée, justement? Pour faire échouer la mission ou pour, voyez, pour brouiller le lien entre l'alliance entre l'Angleterre. C'est pour ça. Il y a aussi des raisons politiques. C'est pour ça qu'au moment de son autopsie, les Anglais qui n'aimaient pas du tout les Français disaient, ah, les Français l'ont empoisonné. Parce qu'Henriette d'Angleterre, elle était encore une fois fille de Charles Ier, donc elle était anglaise en même temps. Et donc, l'ambassadeur d'Angleterre en France, était très présent au moment de l'autopsie, et il a joué, si je puis dire, ou il a agi conformément aux vœux de Louis XIV, c'est-à-dire le message politique qui était passé par la Cour de France comme par la Cour d'Angleterre, c'est qu'il n'y avait pas eu d'empoisonnement. Et ce qu'on a comme ce qui est assez intéressant, moi j'en parle un peu dans mon livre, dans mon portrait, c'est l'autopsie d'Angleterre, d'Anne d'Autriche, d'Anne d'Autriche, d'Anne d'Henriette d'Angleterre. Description de et à chaque fois le résultat est là. Elle était sans doute tuberculeuse, elle avait le foie pourri, elle était extrêmement malade, elle était extrêmement maigre. L'empoisonnement n'a rien à voir dans tout ça. Elle est morte de maladie. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'ils en fassent tout. C'est comme ça. Voyez, c'est l'explication officielle qui était donnée et qui
Oui.
correspond très certainement à la réalité parce que je vois pourquoi on l'aurait empoisonné.
Mais ce qui frappe, c'est 8 heures d'agonie, 9 heures entre le
Ah
moment où
oui.
elle boit ce verre de chigron. Nous allons parler de sa mort, bien sûr, et des suites de sa mort, si vous le voulez bien. Ce qui frappe et ce qui se fait penser à l'empoisonnement, c'est la brièveté de l'agonie.
Oui, tout à fait.
C'est extrêmement frappant. Et il y a une chose qui m'a aussi beaucoup frappé. Jean-Michel Lecointre, dans ce portrait, ce magnifique portrait que vous faites d'Anne-Henriette d'Angleterre dans Madame la Cour, la mort, que vous incluez dans ce recueil Grandeur de l'esprit français, 10 portraits d'empereurs Paris à Saint-Simon, que vous publiez donc aux éditions Le Cherche Midi. Ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'à travers tout ce que vous racontez de la vie de cette jeune Anne-Henriette d'Angleterre, morte à 26 ans, mais qui a vécu de longues années à la cour, puisqu'elle était enfant, s'est réfugiée à la mort de son père. Vous nous l'avez rappelé, décapité Charles Ier par Cromwell, se réfugie avec sa mère à la cour de France. Elle épouse donc Philippe d'Orléans. Et donc, ce portrait aussi, pour vous, est l'occasion de décrire ce qu'est la cour. Vous nous avez rappelé la jeunesse de cette cour. Son courage, vous évoquez la vie très, très dissolue de Philippe d'Orléans, de Guiche, de d'autres encore. Mais vous évoquez aussi leur courage exceptionnel. Donc ce
Oui.
sont aussi des personnalités qui sont frappantes. Mais ce qui est remarquable dans la description que vous faites, c'est la dureté de cette cour.
Oui, la
C'est
cour est très
parfois
dure.
sordide même.
Oui, absolument.
On a un mélange de sordide,
Oui.
de grandeur,
Oui.
de brillance. Et
Oui.
finalement, on se dit, mais que pensait tout cela?
C'est un mélange. Effectivement, c'est des tendances qui semblent, qui s'annulent pas du tout, qui se conjuguent les unes les autres et qui se renforcent les unes les autres. Cette bravoure des hommes qui est extraordinaire. Mais d'ailleurs, bon, au moment de Louis XIV, le duel est quand même un peu moins présent. Mais enfin, c'est quoi tous ces jeunes gens qui se battaient en duel, qui ont décimé la noblesse française. Mais là, je parle d'un petit peu avant, mais il y a encore des duels au moment de Louis XIV. Hein. Ce goût de la bataille, bon, qui n'est pas propre à la France. Hein. Les jeunes hommes, généralement, soit qu'ils soient embrigadés, soit de leur propre volonté, ils aiment la guerre et la violence. C'est comme ça. Tout au long de l'histoire, on le voit aujourd'hui comme hier, comme il y a des millénaires. C'est incroyable, ça, d'ailleurs. C'est cette violence qui, chez les hommes, qui le goût de la mort, du risque, avec tout ce que ça peut avoir en même temps de positif, d'extraordinaire, d'aventureux et en même temps de terrible. Le goût du sens et du sang, c'est très étonnant. Une espèce de désespoir d'être et en même temps une puissance, une force, un élan chez les jeunes. Hein. Te dis en passant, je me permets une remarque accessoire. Quand on parle de l'immigration, c'est pas les vieux immigrés qui gênent. Ça gêne personne, ça. Le problème, c'est même pas les filles, c'est les jeunes hommes. C'est ça le problème. Et le problème qui se pose aujourd'hui dans un nombre de pays, c'est la jeunesse. Et en même temps, la jeunesse, c'est merveilleux parce que c'est l'avenir, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est l'audace, c'est merveilleux. Et en même temps, c'est le goût de la tuerie, c'est le goût de la violence. Ah, chez tout le monde, heureusement. Enfin, très largement, c'est pour ça qu'il y a des guerres, sinon il n'y a pas de guerre. Si avec des femmes, je ne suis pas sûr qu'il y a des guerres, j'en suis pas sûr. Je suis même sûr du contraire. C'est ça, les hommes. Alors, apprendre à laisser, on aime, on n'aime pas, on critique, on essaye, surtout, on essaye toujours, toujours, tous les pouvoirs essayent de les canaliser. Et Louis XIV, lui, il canalise la jeunesse et la noblesse, les rivaux possibles, par les guerres extérieures. C'est un roi conquérant, Louis XIV. C'est un extrêmement agressif. Et la cour, elle est tout ça. Et je vais vous dire autre chose, plus simplement, d'un certain point de vue. Il y a, et je le note là-dedans, parce que c'est un observateur du temps qui le dit, les femmes n'aiment que les soldats. Je parle de l'époque, hein, du temps de Louis XIV. C'est sa phrase. Elle n'aime que les soldats. Quelqu'un qui n'aime pas un soldat, qui n'est pas un soldat, il ne suscite pas de désir, ou alors des désirs. Si on veut être vraiment aimé, la passion, elle a un lien avec la guerre. Je parle de l'époque. Peut-être qu'on peut élargir, mais enfin, en tout cas, je parle de l'époque. C'est pour ça que Guiche est un homme, par exemple, Guiche et tous les autres. Le panache est érotique. C'est comme ça. Je parle de l'époque. Aujourd'hui aussi, je pense, mais aujourd'hui, c'est quand même très différent. Je pense pour mille raisons. Mais à l'époque, oui, le panache est nécessaire. Un homme de panache est un homme qui suscitait non seulement l'admiration, mais l'amour, le désir d'un certain nombre de femmes. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas propre à la cour de Louis XIV. Hein. Là, je travaille un texte sur une époque qui précède d'au moins une trentaine d'années, cette époque dont nous parlons, même plus que ça, 50 ans, c'est déjà la même chose. Et puis avant, c'est la même chose, du temps de... etc. Et avant, et après, enfin bref, c'est des constantes. Voyez? Et la cour, tout est réuni, parce que comme le jeune roi Louis XIV, il y a 22 ans, de 25, 22 à 30 ans, jusqu'à la mort de Henri d'Angleterre, mais c'est un, on ne se rend pas compte, c'est une boule d'énergie, Louis XIV, à ce moment-là. Il est tellement jeune. Il a vécu longtemps, c'est pas un hasard. Hein. Il était tellement jeune. C'est une cour bouillonnante. C'est pour ça que je dis que c'est une cour d'une jeunesse extraordinaire. Elle bouscule tout. Et la France est la plus grande puissance du monde à l'époque, quasiment. Vous vous rendez compte un petit peu? Le sens de la gloire que ça peut donner, l'enthousiasme que ça peut donner. C'est quand même fou, quoi. Alors aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a des gens qui disent, ah oui, mais comprenez, ceci, cela, la France, même sur mon titre, certains peuvent être un peu choqués. Grandeur de la France, comment la France, de la grandeur, mais c'est mal. Mais non, c'est pas mal. On peut être fier de ça. On a d'autres raisons d'être. Il y a de la grandeur, mais aussi, effectivement, comme vous le dites, il y a du sordide, il y a de la cruauté, il y a de la misère. Oui, bien sûr, oui, bien sûr.
D'un côté, nous avons un message auditeur sur la jalousie. de Philippe d'Orléans. Jaloux, point d'interrogation, écrit cet auditeur, mais le grand Condé, qui négligeait sa femme, ne tomba-t-il pas malade et en léthargie lorsqu'il soupçonna quelque intrigue la concernant? Il se coucha et tomba en dépression, comme il se dirait aujourd'hui, humilié dans son nom, son rang, surtout peut-être.
C'est une très bonne remarque et très juste. C'est parce que là, en l'occurrence, en effet, c'est vrai ce qui est raconté par l'auditeur, c'est l'honneur. La question de l'honneur. Et donc, ça ne suppose pas nécessairement de même. Vous savez, comme moi, on n'est pas jaloux parce qu'on est amoureux. On est jaloux, ça se passe, c'est autre chose qui se joue là-dedans. Quand on est amoureux, quand on aime quelqu'un, on peut avoir de la jalousie, mais on ne le tue pas, par exemple. Là, c'est une jalousie qui est chez monsieur qui n'est pas sexuel, comme chez Condé, ça ne l'était pas. Mais en effet, c'est une question d'honneur, de vanité et de rang, effectivement, oui.
Alors, je vous propose, si vous voulez bien, il nous reste 6 minutes à passer en votre compagnie, Jean-Michel Lacomté, pour évoquer justement l'agonie et la mort d'Anne Henriette d'Angleterre. Vous écrivez dans ce portrait que vous dressez d'elle qu'elle chuchote au roi, qu'il perd sa meilleure servante. Elle plaisante qu'elle sera morte dans les formes. Et vous ajoutez, le panache l'emportait sur les convenances et la peur. Alors, oui. Quelle est la mort? Comment se passe cette mort en 9 heures, à peine 9 heures? Que se passe-t-il?
Là, vous voyez, on n'a pas le temps, mais je raconte ça assez longuement parce que moi, ce qui m'intéresse, je ne suis pas biographe. D'abord, je ne suis pas historien d'origine, même si j'aime l'histoire. Moi, je suis un pur littéraire. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est de rendre compte. D'évoquer, sur la base, bien sûr, d'éléments objectifs. Mais là, vous voyez, par exemple, raconter la mort d'Henriette d'Angleterre, je me suis fondé quand même pas mal sur le texte de Madame de Lafayette, mais c'est la façon dont on rend compte de la mort, c'est ça qui est vraiment. Vous voyez, si on lit quelques lignes simplement, vous voyez,
oui.
Sur sa mort, je la lis, je crois qu'on a le temps. C'est pas très long ce que je vais dire. Dimanche, Henriette s'est levée très tôt après un mauvais sommeil. C'est dimanche du mois juin, fin juin 1670. Elle s'est rendue chez le monsieur qui prenait son bain, a écouté la messe, irritée sans raison et la tête lourde, confiant à son amie, une amie qui était avec elle là, combien elle était lasse de toutes les personnes qui l'environnaient, qu'elle ne les supportait plus. Après les viandes du dîner, c'est-à-dire le déjeuner, dont elle a mangé comme à l'ordinaire, elle s'est couchée sur des coussins dans le salon ensoleillé où Philippe, d'Orléans, monsieur, posait à son tour pour un portrait dont il ne reste strictement aucune trace. Au réveil, son visage était ravagé. Il existe 30 récits de sa mort. Comme la chicorée avait la réputation de rafraîchir, de tonifier et surtout de calmer les maux d'estomac et qu'elle se sentait dévorée de soif, elle demanda à une tasse à sa dame d'honneur anglaise. La boisson lui fut présentée par sa dame d'Atour, une originaire d'Écosse, qui flattait jadis les penchants de Philippe d'Orléans en lui confectionnant des vêtements de fille qu'il enfilait aux mascarades avec une perruque blonde. Madame repose la tasse. À peine, alors ça c'est lorsqu'elle tombe malade. À peine la porcelaine a-t-elle touché la table qu'elle se sent déchirée au côté comme si une lame l'avait transpercée, qu'on l'eût éventrée. Elle pousse un cri, rougit, puis devient d'une pâleur de papier. On la prend sous les bras, on l'emmène toute courbée vers son lit où elle est délassée, déshabillée, couchée. Alors là, c'est pas la mort elle-même, c'est pas l'agonie elle-même, c'est l'agonie, c'est vers la fin. Vous voyez, c'est ce qu'on constate sur les raisons de la mort, en tout cas. La pensée du poison lui vient quelques instants plus tard. On fait boire de la chicorée à un chien. Madame déborde, en boit à son tour, etc., sans effet. De sorte que s'il y eut poison, il faut se demander qui l'administra et commandité par qui, et d'autre part, de quelle manière. Écartons la toxicité du breuvage. Reste l'empoisonnement de la tasse, je passe, c'est ça. Quoi qu'il en soit, on constate qu'entre les viandes du déjeuner, la tasse de chicorée et le bol de bouillon,
qu'on lui servit au milieu de la nuit, peu avant l'arrivée du roi, l'agonie s'est déroulée sur fond de nourriture prise et rendue. Et qu'à cet échange entre l'intérieur et l'extérieur, source d'un équilibre instable, la belle santé quand il est heureux, la mort quand il se détruit, s'ajoutent les saignées, tantôt au bras, tantôt au pied, et même soit au pied droit, soit au gauche, pour atteindre finalement le point où plus rien ne se rend, hormis le dernier souffle. Etc., etc. Vous voyez, ce que je veux dire à travers ça, c'est que les explications sont diverses, empoisonnement c'est difficile, et ensuite, elle meurt également, enfin elle meurt réellement. Alors la mort, c'est encore autre chose, le moment où elle va mourir, et ça c'est le moment où elle va se rapprocher de Bossuet, lui-même, qui est son confesseur, et qui est une conclusion absolument déchirante.
Que se disent-ils ? Que dit Bossuet de cette dernière entrevue avec Henriette d'Angleterre ?
Il essaye de la consoler, de la rassurer, il la félicite d'être et lui dit oui à l'époque il faut et lui dit qu'elle meurt comme il faut mourir, comme on disait à l'époque, et on le retrouve chez Molière. Elle meurt, enfin chez Molière, dans l'expression, on la retrouve chez Molière. Elle meurt dans les formes. À l'époque, il faut mourir dans les formes.
C'est-à-dire, Jean-Michel le Raconté, dans le cadre d'un Henriette d'Angleterre.
Oui, il y a une certaine manière de mourir, il faut respecter les autres, il faut respecter sa propre... Il faut se respecter, il faut bien mourir. Pourquoi ? Parce que quand on meurt parmi les siens, généralement c'est une mort collective, et on conservera la mémoire de la mort comme une épreuve. Une épreuve qui est vécue avec l'entourage, avec les proches, avec la collectivité. Là, au sein de la cour, même, les gens ils viennent dans sa chambre, ils la reniflent. Mais c'est la même chose pour Anne d'Autriche, d'ailleurs. C'est d'une insolence, c'est incroyable, hein, la façon dont on meurt. Mais il faut mourir dans les formes, c'est-à-dire comme une grande dame.
Elle meurt avec un grand courage. Merci beaucoup à vous, Jean-Michel de la Comté, d'être venu nous présenter ce magnifique portrait que vous faites d'Anne Henriette d'Angleterre dans Madame la Cour, la Mort, dans ce recueil de grandeur de l'esprit français que vous publiez aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup à vous, merci à Stéphane, à la technique. Merci à vous tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que notre radio a besoin de votre soutien. Très bon dimanche soir.
Venez entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 26 avril 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.